Vous écoutez On lit pour vous.
Philippe Pinel, libérateur des aliénés et père de la psychiatrie, un texte de Guillemette de Préval, paru le 9 avril 2026 dans Ombres et Lumières. Peu connu du grand public, Philippe Pinel, 1745-1826, est vu comme celui qui a libéré les fous que l'on enfermait dans les asiles. Les 200 ans de sa mort sont l'occasion de mettre en lumière ce médecin qui a révolutionné la psychiatrie en France. 1. Une découverte majeure. Philippe Pinel naît en 1745 dans un petit village du sud de la France, près de Castres, dans le Tarn. S'il pense d'abord devenir prêtre, il s'installe finalement à Toulouse pour étudier les mathématiques et la médecine, comme son père. À 32 ans, Pinel monte à Paris à pied. Il espère y faire carrière. Dans les années 1780, il s'intéresse aux asiles où sont enfermés les aliénés mentaux. Il faut imaginer à quoi ces lieux ressemblent alors. Les malades sont attachés par des chaînes dans des endroits sales, à plafond bas, sans accès à l'air libre ni à la lumière. À l'époque, on ne fait pas vraiment de différence entre un fou, un mendiant ou un criminel. Pour protéger la société, on emploie les grands moyens en isolant tout ce monde au même endroit. 2. En finir avec les privations. La Révolution française perturbe ses recherches, mais Pinel garde son intérêt pour les asiles. Pendant la Commune de Paris, le 25 août 1793, il est nommé médecin-chef de l'asile de Bicêtre. Il y fait la rencontre décisive de Jean-Baptiste Pucin. Ce surveillant d'établissement est un homme d'une grande bienveillance envers les malades. Pour lui, malgré la folie, il reste en eux une part de raison et d'humanité. Alors qu'on les traite comme des animaux, Pucin tisse des liens avec eux et leur parle. Grâce à ses expériences, Pinel défend cette idée inédite pour son temps. J'ai la conviction que ces aliénés ne sont si intraitables que parce qu'on les prive d'air et de liberté, exprime-t-il face à Georges Couthon, président de la Commune de l'époque. Pinel et Pucin décident ensemble de détacher certains malades de leur chaîne. Cet acte est un basculement. Si on considère Pinel comme le premier psychiatre avant l'heure, Pucin, lui, serait le premier infirmier en psychiatrie. 3. Classer les maladies. L'autre particularité du travail de Pinel est de classer les maladies mentales, ce qui n'avait jamais été fait auparavant. En 1801, il publie le Traité médico-philosophique sur l'aliénation mentale ou la manie, considéré comme le premier livre français consacré au traitement médical de la folie. L'ouvrage connaît un rayonnement dans le monde entier. Médecin de formation, Pinel voit les troubles mentaux comme toute autre maladie du corps que l'on peut soigner. Cette vision est très novatrice. La psychiatrie devient une spécialité médicale à part entière et surtout, il devient envisageable de soigner ces personnes. 4. Soigner vraiment et autrement. Grâce à cette nouvelle vision, il devient possible d'améliorer les conditions de vie de ces fous. Pinel défend la guérison de la folie par ce qu'il appelle le traitement moral. Son traitement consiste à donner un cadre de vie strict aux malades, respecter une routine quotidienne, prendre des médicaments prescrits uniquement par le médecin et avoir des activités de travail et de loisirs. Pinel bannit d'un même élan les anciens traitements infligés aux malades, tels que les saignées ou encore les vomissements et les purges. Le saviez-vous? Pinel était de service comme garde républicain le jour de l'exécution du roi Louis XVI, mort guillotiné le 21 janvier 1793. Dans une lettre qu'il écrit le jour même à son frère Pierre, il raconte l'atmosphère, la foule et le bruit des tambours. Aussitôt qu'il a été exécuté, il s'est fait un changement subit dans un grand nombre de visages, c'est-à-dire une sombre consternation. Il poursuit : Je suis certainement loin d'être royaliste, et personne n'a une passion plus sincère que moi pour la prospérité de ma patrie. Mais je ne puis me dissimuler que la Convention nationale s'est chargée d'une responsabilité bien redoutable et qu'elle a dépassé ses pouvoirs. Grâce à Philippe Pinel, la psychiatrie est devenue une spécialité médicale, dit Jérémy Saint-Zel, psychiatre à Paris et spécialiste de l'histoire de la schizophrénie. Philippe Pinel a marqué l'histoire de la psychiatrie française pour plusieurs raisons. Il a vraiment permis à la psychiatrie ce qu'on appelait l'aliénisme à son époque, de devenir une spécialité médicale à part entière. Il lui a donné une légitimité. Inspiré par des auteurs anglais et français, Pinel a donné espoir aux patients et aux familles. Avant lui, il n'y avait pas de production écrite sur les maladies psychiques ni de méthode pour les soigner. Grâce à l'expérience de Jean-Baptiste Pussin, il propose une façon de les traiter. Il fonde les bases de ce qu'on appelle aujourd'hui la psychothérapie, c'est-à-dire le fait de soigner la personne par des échanges verbaux. Selon lui, le malade peut permettre au médecin de mieux comprendre ses troubles. En cela, Pinel est relativement opposé aux traitements agressifs. Ce dernier a contribué à asseoir l'image d'un médecin qui travaille en collectif et non pas tout seul. Un de ses élèves, Jean-Étienne Esquirol, œuvrera beaucoup à la création de nombreux hôpitaux psychiatriques dans toute la France. Les Allemands vont également beaucoup étudier les travaux de Pinel et ces échanges vont nourrir la psychiatrie moderne. C'était Philippe Pinel, libérateur des aliénés et père de la psychiatrie, un texte de Guillemette de Préval, paru le 9 avril 2026 dans Ombres et Lumières.
L'action collective n'ira de l'avant qu'au Québec. Un texte d'Isabelle Dubé, paru le 28 mai 2026 dans la presse. La Cour suprême du Canada a refusé d'entendre une action collective au sujet de sacs faussement décrits comme recyclables pour toutes les provinces et territoires du Canada. Les Québécois concernés pourraient tout de même être dédommagés. L'action collective intentée par Sonia Cohen allègue que des sacs d'emplettes décrits comme recyclables, mais qui ne le sont pas au Canada, ont été vendus dans plusieurs chaînes connues au pays. Selon la requête, Dollarama, la SAQ, Rona, Metro, Uniprix, Toys R, Costco et Tigre Géant ont induit les consommateurs en erreur. On croit que c'est intéressant, la question de la recyclabilité des sacs et de l'environnement, que c'est une question d'importance nationale, affirme en entrevue Maître Joey Zucran, fondateur de la firme LPC Avocat, un cabinet axé sur la défense des droits des consommateurs qui pilote l'affaire. Mais la Cour suprême entend juste 5 % des causes. Les statistiques ne sont pas en notre faveur, poursuit-il. Des sacs qui vont au dépotoir. L'histoire remonte à 2022. Sonia Cohen voit sur Facebook une publication de Tricentris, un important centre de tri au Québec, indiquant que les sacs réutilisables en vente dans différents commerces terminent leur vie dans les poubelles. Questionnée précisément au sujet des sacs Dollarama, Tricentris répond que ces sacs ne doivent pas être mis dans le bac de recyclage. Depuis, Dollarama a changé son sac, mais à l'époque, on pouvait lire sur le sac « Je suis réutilisable et recyclable ». Il disait les deux, souligne Maître Joey Zucran. L'avocat explique qu'en faisant une enquête, il a découvert que de nombreux magasins se livraient à la même pratique. Pour appuyer le dossier déposé initialement en 2022, la demande d'action collective cite un rapport du Centre international de référence sur le cycle de vie des produits, procédés et services, CIRAIG, CIREG, qui conclut que même si ces sacs sont décrits comme recyclables, ils sont mis au rebut par les centres de tri au Québec. Le rapport, analyse du cycle de vie des sacs d'emplettes au Québec, a été préparé pour le gouvernement du Québec, Recyc-Québec. Peut-être qu'ils sont recyclables dans un endroit précis dans le monde, mais au Canada, quand on les met dans les bacs, ils finissent aux poubelles, soutient Maître Joey Zucran. En 2024, la juge Dominique Poulin a finalement autorisé Sonia Cohen à intenter une action collective fondée sur la loi sur la protection du consommateur et sur le Code civil du Québec en liant avec des allégations de représentation trompeuse relativement au caractère recyclable des sacs réutilisables vendus par les défenderesses au Québec. Mais la juge l'a refusé pour le reste du Canada, tout comme la Cour d'appel ensuite et maintenant la Cour suprême. La firme LPC Avocat a en parallèle préparé une nouvelle action collective qu'elle a déposée devant la Cour fédérale du Canada au nom de tous les Canadiens. Pour le moment, il n'y a pas eu d'entente au Québec, donc l'affaire suit son cours. En attendant, les consommateurs qui ont acheté un sac avec la mention « recyclable » depuis le 16 avril 2019 dans l'un des magasins mentionnés peuvent s'inscrire sur le site de la firme d'avocats afin qu'ils soient plus facilement joignables en cas de règlement. Dollarama a changé ses sacs. C'est un peu, selon moi, comme une admission et un aveu, ajoute l'avocat. L'action collective souhaite obtenir un total de 10 millions de dollars à titre de dommages-intérêts punitifs. C'était « L'action collective n'ira de l'avant qu'au Québec », un texte d'Isabelle Dubé, paru le 28 mai 2026 dans la presse.
Un scientifique en chef fringant. Un texte de Charles Lecavalier, paru le 27 mai 2026 dans la presse. Bassiste des Cowboys fringants et professeur d'économie écologique, Jérôme Duprat veut inspirer la jeunesse à se tourner vers les métiers du savoir en devenant le deuxième scientifique en chef du Québec. Artiste engagé, il veut maintenant conseiller les élus pour qu'ils prennent de meilleures décisions. Mon parcours scientifique n'est pas connu du grand public. C'est une façon de susciter la conversation, de parler de science, de parler de la diversité des parcours. Il n'y a pas un seul chemin pour faire une carrière en recherche, a expliqué le scientifique et vulgarisateur bien connu en marge de l'annonce de sa nomination. Je pense notamment aux étudiants athlètes, à tous ceux qui nourrissent d'autres passions, qui veulent revenir vers la science plus tard dans leur vie. Tout ça est absolument possible, dit Jérôme Duprat. En le choisissant, M. Duprat, professeur à l'Université du Québec en Outaouais, estime que Québec vient illustrer aussi qu'on peut conjuguer des passions, des carrières et se réaliser par la science. Artiste engagé, il a pris des positions dans le passé sur une foule de sujets, à titre individuel, d'artiste, de scientifique. Il ne renie pas aujourd'hui ses valeurs et ses principes. Mais la fonction change. C'est une fonction qui est maintenant neutre, qui est au service du gouvernement, et c'est un rôle. C'est un rôle d'amener les meilleures connaissances pour servir les prises de décision. Le ministre de l'Économie et de l'Innovation et grand amateur des cow-boys fringants, Bernard Drinville, recevra ses conseils et avis scientifiques. Spécialiste reconnu en économie écologique, impliqué dans une chaire de recherche UNESCO, le titulaire d'un doctorat en géographie de l'Université de Montréal et d'un post-doctorat en biologie de l'Université McGill a un parcours scientifique absolument remarquable, a dit M. Drinville. Un comité de sélection dont faisait partie le spécialiste international de l'intelligence artificielle Yoshua Bengio a recommandé sa nomination. Mais en plus de son CV bien garni, le gouvernement du Québec mise également sur un communicateur et un vulgarisateur qui saura susciter des vocations scientifiques chez les jeunes, s'est félicité M. Drinville. La capacité de vulgariser la science, dit le ministre Drinville, de parler aux jeunes, de la rendre accessible aux enfants dans les écoles, aux adolescents, jeunes adultes dans les cégeps et les universités, oui, ça a compté dans ma décision de le recommander au Conseil des ministres, parce que je pense que Jérôme peut avoir un impact très positif auprès de la jeunesse pour valoriser la science et susciter des vocations scientifiques. Comme scientifique en chef, M. Duprat se voit confier trois fonctions. Il devient président-directeur général du Fonds de recherche du Québec, un fonds de plusieurs centaines de millions de dollars. Il sera un acteur de premier plan de la diplomatie scientifique du Québec. Enfin, il conseillera les membres du gouvernement en matière de développement de la recherche et de la science. Dans ce rôle, il aura à donner des avis au gouvernement qui pourra l'écouter ou pas. Comme ancien membre du comité consultatif sur les changements climatiques, il peut en témoigner. Les scientifiques avaient demandé à Bernard Drinville de ne pas reculer sur la cible climatique du Québec, ce qui n'avait pas empêché le ministre, alors à l'environnement, de repousser l'atteinte des cibles à 2035. Les décisions reviennent au ministre, reviennent aux décideurs. Alors, le rôle, c'est de pouvoir offrir la meilleure science, sachant qu'ensuite, il y a des arbitrages à faire, des arbitrages qui appartiennent aux politiques, a dit M. Duprat. Mais que dirait-il au jeune Jérôme Duprat qui a joué des chansons comme « Plus rien » sur la fin du monde en raison de l'inaction des décideurs? Pour l'amour du Québec. Le dénominateur commun, a-t-il répondu, c'est l'amour du Québec. On peut le critiquer, on peut l'aimer. On a absolument besoin des artistes. On a besoin d'objecteurs de conscience, on a besoin de ce très large spectre des parties prenantes de la société pour être capable d'avancer correctement. On a besoin de la science, on a besoin des fonds de recherche du Québec, du bureau du scientifique en chef, on a besoin d'une collaboration avec le politique, a-t-il expliqué. La députée solidaire Alejandra Zaga Mendes est enchantée de cette nomination. Elle peut témoigner de la qualité de l'homme. Elle le connaît bien, puisque c'est lui qui a dirigé sa thèse de doctorat. Je peux donc dire avec confiance que c'est quelqu'un de brillant, de rigoureux et de profondément humain. C'est un scientifique qui n'a jamais eu peur de sortir des murs de l'université pour parler au vrai monde, a-t-elle indiqué. Dans une période où trouver des solutions à la crise climatique exige du courage, de la clarté et une science bien ancrée dans le réel, sa nomination est une excellente nouvelle pour le Québec, a-t-elle ajouté. M. Duprat succède à Rémi Quirillon, un bâtisseur qui est en poste depuis 2011, moment où le poste de scientifique en chef a été créé. C'était un scientifique en chef fringant. Un texte de Charles Lecavalier paru le 27 mai 2026 dans la presse.
Pratique pour revoir sa consommation d'eau. Un texte d'Henri Ouellette-Vézina paru le 30 mai 2026 dans la presse. La Ville de Montréal demande à plus d'un million de résidents de réduire leur consommation d'eau pour l'été 2026 en raison de la détérioration d'une importante conduite. Outre les gestes de base, que peut-on faire pour soulager le réseau? Un tel appel à la population devrait-il nous étonner? La presse fait le point avec Sarah Dorner, experte en génie hydrologique à Polytechnique. Quel serait votre meilleur conseil à un Montréalais concerné par l'appel de la ville? Je dirais qu'il faut surtout prendre en compte l'heure de la journée. Si on utilise l'eau à des moments achalandés, on crée une demande supplémentaire. On l'a vu récemment avec les matchs du Canadien. Lors des pauses, dans plusieurs villes, on voyait une augmentation de l'utilisation de l'eau. Ça induit une pression forte sur le réseau. Ce qu'on peut faire pour réduire ça, c'est de penser au moment où on fait sa lessive. On peut choisir des heures de la journée où la demande est moins élevée. Réduire les pointes d'utilisation, ça peut être très utile à l'échelle de la ville. Avez-vous des exemples concrets de comportements à adopter, des choses que vous faites dans votre quotidien? Par exemple, dans mon jardin, j'ai choisi des plantes plus résistantes aux périodes de sécheresse. On peut tout à fait choisir ce qu'on met dans son jardin à long terme pour réduire ses besoins d'arrosage. Et ce n'est pas nécessaire d'arroser un jardin tout le temps. Ce n'est qu'une façon de faire, mais chaque personne doit réfléchir à sa situation en particulier. Si vous avez une entrée de service en plomb, ça peut paraître difficile, surtout qu'on vous a peut-être demandé dans le passé de laisser couler l'eau avant de l'utiliser. Le grand défi, ce sera cet été, quand beaucoup de gens vont vouloir utiliser l'eau pour se rafraîchir dans la ruelle avec les enfants et les boyaux. Il faudra y penser. Chaque Montréalais consomme près de 90 litres d'eau par jour, de plus que la moyenne canadienne. Pourquoi consomme-t-on plus d'eau dans la métropole? On n'a pas de tarification de l'eau à Montréal, contrairement à bien d'autres villes canadiennes, et souvent, ça ne nous pousse pas à réparer nos fuites dans la toilette ou dans le bain, voire dans la cuisine. Dans les autres villes canadiennes, la tarification aide. À London, en Ontario, mon frère avait une facture de 1 000 parce qu'il avait une fuite dans le sous-sol de sa maison qui n'était pas réparée. C'est quand même un montant important. Si on a des sommes comme ça à payer, on va les réparer, nos fuites. Politiquement, ce n'est pas très populaire, mais c'est certain que ça aiderait beaucoup. D'autres villes ont-elles demandé à leurs citoyens de réduire leur consommation d'eau? Oui, certaines. Calgary, par exemple, a vécu une situation semblable par le passé. On avait imposé des restrictions d'utilisation, mais il fallait quand même faire des rappels récurrents aux gens. Au final, on a vu une bonne participation de la communauté. Peu importe où ça se fait, ça reste vraiment un effort continu. Dans notre cas, c'est certain que ça va être difficile à Montréal parce que les habitudes sont là et il y a toute une culture autour de l'eau. Mais dans les dernières années, avec les réparations de conduite, il y a quand même eu des apprentissages qui ont été faits par tout le monde. La crise des infrastructures est connue à Montréal. Comment faudrait-il s'y attaquer réellement? Il y a un gros déficit d'entretien et il faut faire les travaux. Le défi, ce sont toujours les coûts importants, mais aussi la coordination des travaux. Les gens n'aiment pas ça, ça entraîne beaucoup de plaintes en raison des entraves à la circulation. On doit réaliser que ce sont des infrastructures critiques. La bonne nouvelle, c'est que dans les dernières années, il y a eu une augmentation de la cadence de réparation des infrastructures. Il faut continuer en ce sens-là. Les investissements à venir sont prometteurs et il y aura d'autres besoins comme celui d'améliorer l'épuration des eaux usées. Ça aussi, ce sera des coûts. Il y a la gestion de ce qu'on a déjà, mais aussi les futures infrastructures nécessaires au développement durable de la ville. 10 façons d'économiser de l'eau. Source, Ville de Montréal et Fondation David Suzuki. Prendre de plus courtes douches le plus souvent possible. Cesser l'arrosage extérieur, si possible, ou veiller à le minimiser et privilégier le balai pour nettoyer votre terrain. Ne pas laisser couler l'eau en se brossant les dents, en se rasant ou en faisant la vaisselle. Acheter des pompes de douche à faible débit et des toilettes à faible débit. Vérifier que les canalisations résidentielles n'ont pas de fuite ou de rupture. Faire fonctionner le lave-vaisselle à pleine charge afin de réduire le nombre de fois où la machine est en marche. Régler les niveaux d'eau de la laveuse de manière à éviter une consommation excessive pour les plus petites charges. À l'extérieur, si vous disposez d'un jardin, mettre du paillis autour des plantes pour retenir l'humidité et réduire l'évaporation. Se munir d'un baril récupérateur d'eau de pluie en vente dans plusieurs commerces et dans certaines mairies d'arrondissement. Dans la cuisine, installer des aérateurs sur les robinets. Ces appareils mélangent de l'air avec l'eau, abaissant le débit sans affecter la pression de l'eau. C'était Guide pratique pour revoir sa consommation d'eau. Un texte d'Henri Ouellette-Vizina paru le 30 mai 2026 dans la presse.